avec Alexandra Bonjon. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.
François Bernard.
Bonsoir, bienvenue. Robert Mugabe va fêter ses 92 ans à la tête du Zimbabwe depuis 36 ans. Artisan de l'indépendance de son pays en 1980, Robert Mugabe est resté un virulent critique du colonialisme occidental qu'il dénonce sans relâche dans ses formes contemporaines. Mais son rejet de l'Occident ne s'est pas révélé tout de suite. Considéré à son arrivée au pouvoir comme un Mandela prêt à la réconciliation, à la cogestion de ce qui était encore la Rhodésie, Robert Mugabe s'est radicalisé dès les années 90 pour débarrasser son pays de la suprématie des Blancs. Aujourd'hui encore, le vieil homme refuse d'envisager de passer la main, soucieux de maintenir la ligne radicale qu'il impose à son pays depuis un quart de siècle. Alors, Mugabe au Zimbabwe, héritage politique et succession possible. On va en parler ce soir avec un invité unique, Nicolas Champeau, est journaliste au service Afrique de RFI, spécialiste de cette zone septentrionale du continent, longtemps correspondant de RFI en Afrique du Sud. Il revient d'un séjour au Zimbabwe où il a réalisé une série de reportages sur le pays qu'on peut écouter sur RFI et réécouter sur le site RFI.fr. Bonsoir Nicolas Champeau.
Bonsoir François.
Alors, avant d'aborder les questions de la succession, je voudrais qu'on évoque l'héritage politique de Robert Mugabe. Mugabe, anti-occidental, obsessionnel, disent ses détracteurs. Ça n'a pas toujours été le cas, comme le prouve le témoignage qu'on va écouter pour commencer cette émission. Denis Norman a été nommé ministre à l'indépendance en 1980. Il a sillonné le Zimbabwe avec Mugabe et l'a accompagné lors de voyages officiels durant près d'une quinzaine d'années. Écoutez comment il analyse le rapport du jeune Robert Mugabe aux colons blancs qu'il vient de vaincre pour faire accéder son pays à l'indépendance.
Était-il raciste ? Moi, je pense qu'au début, il a fait plus de dégâts dans la communauté noire que chez les Blancs. Dans la province de Matabeleland, je ne sais pas quel était le bilan humain, mais des gens disent qu'il y a eu 20 000 morts. Au début, il a fait montre d'un très grand respect vis-à-vis de la communauté blanche. Il a reconduit le chef d'état-major des armées qui avait combattu ses propres forces. Il a reconduit le chef de la police. Il a reconduit le patron des institutions judiciaires. Et il m'a choisi, moi, qui n'avais rien d'exceptionnel, au poste de ministre de l'Agriculture. C'était un portefeuille très important. Donc ces décisions, il me semble, ne sont pas les décisions d'un homme raciste. Ensuite, il a changé. Mais au début, il a essayé de bâtir une société multinationale et multiculturelle.
Voilà, Denis Norman, ancien ministre de Robert Mugabe, que vous avez rencontré en Afrique du Sud, Nicolas Champeau. Un témoignage intéressant. Qu'est-ce qui a provoqué, on peut se le demander, le revirement du dirigeant conciliant prêt à l'Union nationale, décrit par Denis Norman, vers ce dirigeant africaniste, intransigeant, que semble être devenu à ce moment-là Robert Mugabe?
Alors ça s'est sans doute joué en plusieurs étapes. Il y a eu une première étape en 1987, c'était les premières élections post-indépendance. Et d'après les accords de Lancaster de 79, qui avait organisé finalement l'indépendance, 20 sièges revenaient automatiquement devaient être désignés par les électeurs blancs, et ils ont tous choisi, enfin leurs voix se sont portés vers le parti de Ian Smith, donc l'ancien dirigeant, et Mugabe a été très vexé parce qu'il a vu que les Blancs du Zimbabwe, finalement, votaient selon des critères raciaux. Il a été très fâché et il a dit, puisque c'est cela, eh bien moi aussi, je vais commencer à gérer le pays selon des critères raciaux. Il l'a dit texto dans une lettre à Denis Norman, qu'on vient d'entendre et qui est blanc. Mmh. Il lui a dit, eh bien, puisqu'ils agissent ainsi, eh bien, à ta place, je vais mettre un noir. Ensuite, en 1997, Tony Blair est arrivé au pouvoir. Les travaillistes, les conservateurs sont chassés et sa ministre du Développement, Claire Short, écrit une lettre au gouvernement zimbabwéen et lui signifie que le gouvernement travailliste ne financera pas la réforme agraire à la même hauteur que l'avaient prévu les conservateurs. Elle dit qu'elle ne se sent pas liée par les promesses des conservateurs. Deuxième trahison pour Mugabe, qui se met à associer finalement les Blancs aux travaillistes, sachant qu'entre-temps des difficultés économiques avaient surgi et que les agriculteurs blancs s'étaient mis à soutenir financièrement le parti d'opposition MDC. Et donc, on assiste là à un phénomène où l'on voit Mugabe qui devient plus rigide, qui se sent menacé. En 2000, son référendum sur la Constitution est rejeté et donc il permet aux vétérans noirs de confisquer les terres aux blancs et de les chasser de cette terre qui était très très fertile et très productive pour le pays.
Politique d'expropriation sur laquelle on va revenir dans un instant. On pourrait peut-être essayer de comprendre avant ça comment expliquer sa longévité au pouvoir sans vraiment être soumis, on va le dire, à une contestation susceptible de le renverser, en tout cas.
Alors, il y a de multiples raisons. Tout d'abord, son bagage intellectuel et son éducation, il est brillant dès son plus jeune âge. Les missionnaires catholiques qu'il éduque soulignent les promesses de cet enfant prodige. Il cumule en tout 7 diplômes, dont plusieurs acquis en détention par correspondance. Mmh. Donc, il impressionne ses codétenus et aussi, il impressionne donc la communauté internationale et notamment les Britanniques qui le rencontrent en Angleterre et qui décident donc de miser sur cette personne intelligente et qui se révèle aussi être un très bon orateur. Durant les premières années, il donne énormément de gages à la communauté internationale parce que vous l'avez dit, il reconduit des blancs, Denis Lorman l'a dit, à des postes très importants, il laisse les industriels prospérer, donc il les rassure, il regarde ailleurs quand il fait massacrer ses rivaux dans le Matabeleland. Ensuite, il a réussi à transformer l'appareil sécuritaire en un appareil très politisé, totalement acquis à sa cause qu'il peut mobiliser, y compris pour des basses œuvres. Et c'est un politique très agile. Il sait par moment nommer ses rivaux. On l'a vu avec Joshua Nkomo à des postes où finalement ils ont très peu de marge de manœuvre. Il a également certainement manipulé les résultats de certaines élections. On en est quasiment sûr pour le scrutin de 2008. Donc il a puisé dans la violence, dans la fraude électorale, mais il inspirait aussi le respect en Afrique australe parce qu'il a été l'un des premiers libérateurs et donc il a été soutenu par ses pairs, en premier lieu par son voisin sud-africain.
Alors, fin stratège, ça semble évident. Si on revient à cette politique d'expropriation, est-ce qu'on peut dire que c'est un point de bascule dans son fonctionnement politique? Rappelez d'abord ce que c'est, très rapidement.
Alors, tout d'abord, c'est une politique qui n'a pas du tout été préparée. C'est une réforme agraire qui a consisté à autoriser des vétérans de la guerre de libération à envahir des fermes tenues par les Blancs. Ils étaient 4000 à la fin des années 90. Ils sont 150 aujourd'hui. Et c'était des agriculteurs commerciaux blancs très, très, très productifs. Le Zimbabwe était parmi les premiers exportateurs de tabac du monde. Ils exportaient des fleurs en Hollande, c'était les greniers à céréales du continent. Et puisque ces terres ont été données à des gens qui n'avaient pas nécessairement le savoir-faire ni les moyens, les compétences pour lever des fonds et exploiter ces terres, la production a chuté et dans sa chute, elle a entraîné l'industrie qui dépendait de l'agriculture.
Et 17 ans plus tard, alors, quel regard on peut jeter sur cette politique menée à ce moment-là? Quel succès, quelle part d'échec selon vous?
Alors c'est un énorme échec. Des fermiers noirs et des bénéficiaires noirs ont su tirer parti des terres qui leur avaient été données, mais ils sont minoritaires. Et ce que j'ai observé lors de cette dernière mission au Zimbabwe, c'est que les autorités commencent à faire appel aux blancs, aux fermiers blancs, pour qu'ils reviennent avec leur savoir-faire, avec leurs capitaux. Ça se fait dans le cadre de joint venture, donc entre des fermiers blancs et des vétérans noirs qui avaient reçu des terres, donc une forme de mea culpa de la part des autorités.
Une réforme en tout cas qui a enrichi un certain nombre de gens qui aujourd'hui n'ont pas du tout envie, manifestement, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, de renoncer à leurs privilèges. Sur ce point, Vous l'avez évoqué à l'instant, la vision qu'on a en Afrique de Robert Mugabe. Plutôt positive, non?
Oui, dans la plupart des grandes réunions publiques, qu'il s'agit de cérémonies pour marquer un anniversaire de l'indépendance au Swaziland, la première prestation de serment de Jacob Zuma en Afrique du Sud en 2009, c'était souvent celui qui était le plus acclamé par la foule avec feu Muammar Kadhafi. Il est considéré comme d'abord un libérateur. Il a aidé les voisins d'Afrique australe lorsqu'il lui était au pouvoir et que eux luttaient encore pour leur libération. Donc ils lui font un renvoi d'ascenseur, si je peux me permettre, en l'aidant aujourd'hui. Il est également apprécié parce qu'il tient tête aux États-Unis, à l'Europe. Il a un discours très impérialiste que les autres chefs d'État ne peuvent pas tenir parce que leur économie est trop connectée avec l'économie mondiale. Mais ils sont bien contents d'avoir cet homme qui dit tout haut ce que eux pensent tout bas.
Symbole de la résistance à la suprématie occidentale.
Tout à fait.
François Bernard.
Pas de débat ce vendredi, mais un bilan et perspective, on va dire, du plus âgé des dirigeants africains, Robert Mugabe, président du Zimbabwe, qui aura demain 92 ans. On en parle avec Nicolas Champeau du service Afrique de RFI, qui revient d'un séjour donc au Zimbabwe, qui vient de réaliser une série de reportages que vous pouvez, amis auditeurs, écouter et podcaster sur notre site internet. Nicolas Champeau, on dit souvent que Mugabe, on dit de lui en tout cas qu'il est une espèce de Castro, Fidel Castro africain. Et Castro a lâché le pouvoir au profit de son frère Raoul. À qui Mugabe serait-il tenté de passer la main?
Alors il s'est bien gardé de donner des indications parce qu'il envisage de se représenter dans 2 ans. Son parti l'a désigné pour être candidat en tous les cas. Jusqu'il y a peu, en fait, deux personnalités sortaient du lot. L'actuel vice-président Emmerson Mnangagwa, grand chef sécuritaire, combattant durant la lutte pour la libération, et Joyce Mujuru, l'ex-vice-présidente, qui a été chassée du parti il y a 18 mois, épouse de Solomon Mujuru, et héros de la lutte pour la libération. Mais Robert Mugabe a sorti de son chapeau son épouse, Grace Mugabe, sans doute pour brouiller les pistes. Il l'a propulsée au politburo de son parti, la ZANU-PF. Elle a réussi à obtenir un doctorat en un temps record, qui en tout cas a été très contesté. Et du coup, ça brouille les pistes, personne n'est confortable et il reste le seul maître incontesté.
Alors Grace, héritière familiale, on va dire, mais est-ce que Mugabe a un héritier ou une héritière politique? Est-ce que c'est Grace aussi ou est-ce que ce sont les deux opposants que vous venez de citer, à savoir Emmerson Mnangagwa et Joyce Mujuru?
Alors Grace Mugabe est détestée des Zimbabwéens, détestée des vétérans de la lutte pour la libération, qu'elle a critiqué ouvertement en décembre. Des diplomates disent même qu'elle a intérêt à faire attention à son intégrité physique après la mort de Robert Mugabe. Donc la partie sera sans doute très difficile pour elle. En ce moment, Joyce Mujuru semble avoir le vent en poupe. Elle a lancé avant-hier son parti politique. Elle souhaite monter une grande coalition avec les anciennes forces d'opposition, notamment le nouveau parti de Tendai Biti. Elle a approché l'ancien premier ministre Morgan Tsvangirai et il semble mordre à l'hameçon. Jusqu'ici, les diplomates occidentaux avaient l'air de privilégier Emmerson Mnangagwa parce que c'est un homme à poigne qui a une approche pragmatique des affaires, mais ils suivent avec attention également le parcours de Joyce Mujuru.
Alors, elle est toujours dans la course, manifestement. Elle vient de créer un nouveau parti. Elle a des chances, finalement, de succéder à Mugabe?
Elle a des atouts en sa faveur. Elle est issue du mouvement pour la libération. Elle était elle-même combattant. Ce sont des credentials, des atouts que n'avait pas le MDC, qui sont considérés comme des urbains, comme des intellectuels qui n'étaient pas dans le mouvement pour la libération. Et Mugabe n'a eu de cesse de leur rappeler, elle est là, cette légitimité-là. ces deux co-lieutenants, Rougaré Gombo et Didymbus Moutassa, sont également issus du parti du Mouvement pour la Libération. Les gens, elle a un capital sympathique, car les gens n'ont pas vraiment apprécié de la façon peu élégante dont elle a été chassée du parti en 2014. Elle est peut-être soutenue par l'opposition, elle a une assise territoriale, donc elle a toutes ses chances.
Alors, il semblerait, je veux dire, que l'opposition aujourd'hui soit issue du propre parti du président Mugabe. Est-ce qu'il y a une opposition qui émane de l'extérieur de ce parti-là?
Mais pas vraiment. Le MDC a eu ses chances. Il a vraiment suscité l'espoir, surtout en 2008. Morgan Tsvangirai était arrivé en tête du premier tour, mais les forces de sécurité ont été, la jeunesse et les milices de la jeunesse de la ZANU-PF ont persécuté, harcelé, battu, torturé les partisans du MDC, tué 200 personnes, et Morgan Tsvangirai a jeté l'éponge avant le deuxième tour. Il a ensuite participé à un gouvernement d'union, expérience qui, au cours de laquelle il s'est un petit peu discrédité. Donc les Zimbabwéens à qui j'ai parlé m'expliquent qu'il n'est plus crédible comme candidat pour le prochain scrutin.
Et Mugabe, on parle de lui pour la présidentielle, vous l'avez encore noté il y a un instant, c'est vraiment réaliste?
Mais écoutez, il prononce encore des discours fleuves de 90 minutes, parfois sous des tentes, parfois il fait 40 degrés, les diplomates qui l'observent sont en âge, mais lui, il tient un discours cohérent, fait passer les messages qu'il souhaite faire passer. On l'a encore vu le mois dernier à la tribune de l'Union africaine à Addis Abeba.
En forme, Monsieur Mugabe. Au-delà des postures, Nicolas Champeau, quelle est la réalité aujourd'hui des échanges entre le Zimbabwe et le monde occidental?
Eh bien, on a assisté ces dernières années à un retour de l'Union européenne qui est revenu sur certaines sanctions. L'Union européenne mène une politique de l'engagement. Les Américains, eux, préfèrent que Robert Mugabe et son gouvernement fassent preuve de réformisme avant d'alléger ces sanctions. Et Robert Mugabe, du fait de ces sanctions qui sont en place depuis bientôt une dizaine d'années, a adopté une politique qu'on appelle « Lock East », c'est-à-dire qu'il s'est tourné vers l'Asie et notamment vers la Chine.
Alors, sur un plan peut-être plus personnel, puisqu'on est quasiment à la fin de cette émission, quelles sont les impressions fortes que vous ramenez de ce séjour au Zimbabwe?
Alors, ce qui m'a choqué, c'est à quel point les Zimbabwéens se sont détournés de la politique. Je vous le disais, il y avait cet énorme espoir en 2008, espoir qui a été déçu. Du coup, ces Zimbabwéens qui sont très résilients, très 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 intelligents et très habiles dans le système D, contournent les obstacles pour monter leurs entreprises. Ils n'attendent plus rien du gouvernement, plus grand chose de la politique, et en fait ils estiment que le destin est entre leurs mains. Donc ils font appel à leur savoir-faire, à leur intelligence, à leur résilience pour les uns s'en sortir et réunir à suffisamment de nourriture pour leur famille, et pour d'autres pour monter des affaires, monter des start-up. Il y a la 4G à Harare, il y a la fibre optique, ça paraît assez incongru dans une capitale à Harare par exemple, où il n'y a plus d'éclairage public et où les ordures ne sont pas ramassées.
Et vous avez également l'auteur d'un grand reportage qui s'appelle « L'optimisme des jeunes Zimbabwéens ». Les jeunes du pays sont optimistes, malgré tout?
Oui. Les pauvres et les riches, les classes moyennes, ils sont assez optimistes. Ils sont confiants. Ils savent aussi que Robert Mugabe ne va pas rester éternellement au pouvoir. On vous l'avait dit, après-demain, il aura 92 ans. Et ils pensent qu'il y a des infrastructures en place. Il y a un savoir-faire au Zimbabwe. Si on améliore l'image du pays, si on cesse d'effrayer les investisseurs, ces infrastructures peuvent être remise en marche et le pays peut redémarrer.
Bon, allez, prochain rendez-vous électoral, ce sera en 2018, à moins que d'ici là, M. Mugabe soit dans l'incapacité d'exercer ses fonctions. On en reparlera donc. Merci à vous, Nicolas Champeau, d'avoir éclairé la situation. Vous êtes journaliste au service Afrique de RFI, auteur de cette série de documentaires qu'on a évoqués sur le Zimbabwe, qu'on peut réécouter sur RFI et sur notre site internet rfi.fr. Également, Merci à Florence Ponce et à Claude Battista qui ont collaboré à cette émission. Vous la retrouvez sur notre site. Vous pouvez la podcaster également. Lundi, vous retrouvez Anne